Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Et oui, vous le savez, désormais, tous les jours, je vous retrouve en direct entre 13h et 15h sur BFM Business. Et quand le week-end arrive enfin, je retrouve mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Et aujourd'hui, coup de projecteur sur le, ou plutôt les savoir-faire joailliers. Cette semaine, durant la semaine de la haute couture à Paris, les plus grandes maisons de la place Vendôme présentaient leur nouvelle collection. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les coulisses de la création et de la fabrication. Avec dans un instant Joseph Labani, chef d'atelier de la maison Mellerio di Meller, Marie Valanel est la directrice de l'école Van Cleef & Arpels et Mathieu Tourner, il est le directeur artistique de la maison Tourner. Mais pour l'heure, les nouveautés de la semaine.
Good de Luxe Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et traditionnellement, Emmanuel, les nouveautés de la semaine, on les commence avec la table de la semaine. Et quelle table ?
J'adore.
Je vous sens déjà là en ébullition.
Alors vous savez, il y a un délicieux paradoxe aujourd'hui dans le petit monde de la gastronomie parisienne. La moitié de Paris, des appétits parisiens, jouent les perruches.
C'est-à-dire grignotent des graines, c'est
ça ? Des graines, du veggie, du quinoa. Puis quand on dit que l'autre se burgerise, et il va dru dans le pentu autour des nourritures carnées. Bon, c'est le grand retour des tables à viande. On en a souvent parlé dans cette émission depuis 2 ans. Mais là, c'est la première fois qu'un de nos bouchers stars, l'un des deux grands bouchers stars parisiens, quand c'est pas Yves Marie Le Bourdonnais, c'est Hugo Desnoyers, qui s'installe en tant que restaurateur. Alors, il a 2 boucheries à Paris, une dans le 14e, une dans le 16e. Mais là, il investit la halle secrétant. La halle secrétant, c'est dans le 19e. Une halle en structure baltar. Il y en a plus beaucoup à Paris. Elles viennent de se réhabiliter. Elles sont assez flambant neuves. Et il ouvre son restaurant. Avec une carte, alors le décor, on va dire que c'est entre le saloon et le design. Plutôt très réussi.
Un peu cow-boy quand même, hein.
Oui, mais cow-boy chic, vraiment très réussi, sincèrement. Avec une carte à double descente. Première carte, à double tranchant, j'allais presque dire. Première carte, une carte qui va jouer sur les bouchers-bouchères. C'est-à-dire des manières de tapas, plutôt réussies. Franchement, le canaille fait dans la dentelle. Il y a des petits pieds de cochon retravaillés, des têtes de veau, des petits tartares réussis. Et puis arrive l'instant où là, on est dans le fondamental de la chose. On est dans les pièces maîtresses. Alors bien sûr, la côte de bœuf, côte de veau, entrecôte, carré d'agneau, faux filet. On va prendre une pièce simple, faux filet. J'en ai jamais vu un comme ça. Un faux filet.
Mais il y a quoi ? Parce qu'on sait qu'il fait de la très bonne viande, Hugo Desnoyers. Mais il y a quoi à côté ?
Non, mais quand on a des... Non, sincèrement, justement. C'est souvent ce qu'on a envie de dire. Oui, ben d'accord, mais il y a quoi ? Quels sont les accompagnements ? D'abord, très réussi, des petites purées à l'huile d'olive, des accompagnements et des sauces assez astringentes, plutôt bien faites. Mais non, justement, on va aller dans la vérité de la viande. Un travail de texture, un travail de qualité. Par exemple, votre faux filet, vous allez l'attendre sincèrement un petit quart d'heure, parce qu'il est travaillé dans un four de compétition, un four Jesper, qui travaille très lentement, ce qui va croûter la viande pour mieux en révéler le saignant, la tendreté. Franchement, lorsqu'arrive le faux filet, vous allez passer 30 minutes de duel, puisqu'on parlait de cow-boy, entre elle et vous, et c'est assez épatant. C'est des viandes comme rarement j'en ai vu. Elles sont tous formidables de traçabilité, vivantes. C'est vrai que parfois il y a une poussée de saveur, mais ça, vous savez, c'est un petit jeu de la loterie, mais toujours une qualité idoine minimale.
Secrétant, dans le 19e arrondissement, voilà. La table du boucher star Hugo Desnoyers.
C'est un saloon, mais pas de salopard.
Voilà.
Non, on n'est pas chez Tarantino.
Après, l'adresse pour homme, l'adresse pour fille. Très cliché, ce que je dis.
Il y avait plein de filles,
dans l'adresse. Je fais exprès.
Alors allez-y,
Emmanuel.
Parce qu'il y aura peut-être des hommes dans votre adresse.
Pour les fifis et aussi les garçons, vous allez dans la nouvelle chambre d'hôte cachée de Marie Sixine. Marie Sixine, c'est une marque de prêt-à-porter féminin. Elle travaille autour de la maille, des petits basiques très simples. Sauf qu'elle a eu l'idée et l'opportunité, rue de Charonne, dans sa nouvelle boutique, dans le 11e, de se dire, tiens, ça c'est sympa, mais je peux aussi annexer l'appartement au-dessus. Elle aurait pu en faire des bureaux, que sais-je, elle en a fait un petit peu plus, véritablement une chambre d'hôte secrète, c'est-à-dire que ça n'est pas donné à tout le monde. Vous êtes un grand fidèle de la marque, vous êtes professionnel, journaliste, vous avez peut-être un anniversaire, quelque chose de particulier à fêter, c'est pas une chambre d'hôte ouverte à tous, sauf que vous avez ce petit appartement où on retrouve tout savoir-faire autour de la maille. Elle a même appelé quelques collaborations pour un petit rideau avec des pompons, et on peut faire aussi des cours de yoga, des dîners personnels, des petits shoppings, mais il y a une chambre, hein. On peut véritablement y dormir, tout ça.
Une seule chambre.
De la maille, ouais, il y a une seule chambre.
Donc c'est le plus petit hôtel de Paris.
Voilà, c'est un tout petit appartement pour initier et inviter, ou presque, c'est la chambre d'hôte Marie Sixtine.
Ce qui est bien chez Hugo Desnoyers, c'est qu'il y a des Doggy Bye. C'est tellement généreux qu'il joue la carte du Doggy Bye. Donc vous prenez une côte de bœuf, vous remportez le reste et vous allez chez Marie Sixtine finir gentiment vers les 2h du matin, sortir les crocs. Ça s'appelle l'esprit d'escalier.
Allez, web de luxe, il n'y a pas de viande sur le luxe, sur le web.
Ah, on va voir.
Allez, web de luxe.
Goût de luxe Paris, l'édition du week-end, web de luxe.
Desprenois, bonjour, comment allez-vous?
Ça va super, je vous entends parler de viande.
Ouais, vous ne me parlez pas de viande.
Pour une fois, je ne parle pas des hommes.
Bon, ça
marche. Arrêtez de penser que la viande est masculine, elle n'est pas sexuelle.
Quoique.
Gérer leurs chaussettes.
Faut gérer leurs chaussettes. Je vous parle
ça,
de
c'est
chaussettes.
Masculin.
Parce que, en fait, on met un petit peu de côté cet accessoire. Or, c'est très chic, c'est de qualité. Ça peut être de caractère, voire royal. Deux sites dont je voulais vous parler. Badlaine.com tout d'abord. Alors, des motifs, des couleurs, beaucoup de choses à découvrir. Des modèles qui sont tous dits unisex. Pour autant, moi, je trouve que c'est quand même vraiment masculin. Ou alors, c'est pour, comme ça, ponctuellement, quand on est une fille ou à la maison en pyjama, très honnêtement. On peut jouer, quoi qu'il en soit, avec cet accessoire, avec badlaine.com, l'associer avec des vestes, des chemises, des chapeaux, pourquoi pas. Ça peut donner un vrai style. Je trouve que c'est plutôt joliment fait comme site.
Il y en a
un
deuxième.
On peut lâcher
la baleine, j'aurais pu s'appeler Baladure.
Le deuxième site, non, je me souviens pas.
Mais les chaussettes, vous étiez trop jeune.
J'étais trop jeune. Royalties-paris.com, là encore, c'est un site de chaussettes, spécialiste des motifs. Là, alors, ils jouent un petit peu avec le nom Royalties, elles sont un peu royales, on les porte avec des jupes, des shorts, on joue vraiment le total look chaussettes. Il y en a de très intéressantes, très honnêtement, assez rigolotes.
Là, ça marche bien pour les hommes aussi, hein. C'est un beau modèle pour
alors,
les hommes.
Alors là, pour le coup, c'est très départagé. C'est pas dit unisex, il y a les modèles hommes, les modèles femmes et même des modèles pour enfants.
La chaussette est sexuée, définitivement.
Définitivement sexuée, sauf si on décide de...
Ils ont même fait une collab avec le Mont-Saint-Michel qui sait y faire en la matière, en maille. Allez, on change de la chaussette.
On reste dans les vêtements, dans le textile, avec ce site qui s'appelle mytheresa.com. Là, c'est de l'accessoire, du prêt-à-porter de luxe, des sacs, enfin tout ce qu'on veut, avec que des grands designers. Ce sont des pièces qui sortent tout droit des podiums, qui sont... présenté sur le site en exclusivité. L'avantage, c'est qu'on a 500 nouvelles pièces par semaine et toutes les
et c'est avant même qu'ils arrivent en magasin, finalement, avant
exactement,
même qu'ils soient distribués.
Exactement,
hein.
Donc c'est plutôt pas mal. Voilà.
Dès qu'on les a vus défiler,
on les a sur mytheresa.com.
Merci beaucoup, mysandy.com. Merci infiniment.
Mysandy.com.
À la semaine prochaine.
Salut.
Allez, une belle expo, Emmanuel.
Une très belle exposition. Alors, après pas mal de saisons d'enfer depuis les années 70, puis des saisons de purgatoire, vous le savez, le papier peint revient assez fort. Alors, pas véritablement dans nos intérieurs encore. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le papier peint dans les hôtels, dans les restaurants, dans certaines boutiques, revient en force. Et les Arts Déco ont eu la bonne idée de faire toute une exposition. Parce que c'est l'un des plus puissants, justement, le papier peint, support de l'art décoratif. Alors, faut d'abord savoir que les Arts Déco ont une collection absolument unique. C'est une manière de le dépôt légal du papier peint, puisqu'il y a pas moins de 400 000 œuvres recensées. Ils vont en exposer jusqu'au 12 juin prochain, environ 300 dans 6 pièces, 6 salles, qui vont raconter à la fois les techniques, les supports, les graphismes, l'évolution artistique. C'est aussi une manière d'histoire de l'art. Alors, on va voir, bien sûr, des motifs parfois très fleuris, parfois très végétaux, parfois beaucoup plus abstraits. Très, très belle exposition, accompagnée d'un livre. Je ne vais pas tout vous raconter. Allez la découvrir. On s'aperçoit juste, au sortir de cette exposition, qui, bien avant mai 68, les murs avaient vraiment la parole. C'est très, très réussi.
Et on rappelle juste quand même qu'au Musée des Arts Décoratifs de
Paris... Rue de Rivoli, Paris.
Voilà, il y a aussi en ce moment l'exposition Pierre Frey, la maison Frey, qui là aussi a fait de superbes papiers peints.
Et qui répond formidablement bien.
Tissus, exactement. Et donc, pour leur anniversaire, on retrouve toute cette belle exposition, effectivement, qui fait écho au papier peint. Et tout ça, c'est toujours aux Arts Déco. Allez, je vais passer tout de suite à l'objet de la semaine. Et là aussi, on a pas mal de... motif, mais dans un tout autre genre. Regardez ce que je vous ai amené, Emmanuel. Un beau costume. Celui-ci, c'est pas tellement votre style. Ce gris, comme ça, avec des petits carreaux mauves.
Ça, c'est le style paillès, Lionel.
C'est Lionel paillès. On le retrouvera en fin d'émission.
C'est pour ça que j'ai l'annonce.
Il y a le gilet, le pantalon. Il y a quand même un petit twist. Vous avez vu à l'intérieur ces photos d'automobiles en noir et blanc. Et pourquoi? Parce que c'est la nouvelle marque Sir Gentleman Driver qui vient d'ouvrir boutique à Paris. Alors, elle pour l'instant, elle se crée autour des costumes. Elle a été imaginée en 2009 par Guillaume Bertrand. C'est un ex de la finance, d'un cabinet de gestion. Encore là, il s'est refait une petite vie. Et donc, il lance la première boutique. C'est rue du Four, dans le 6e arrondissement. Et il lance du preppy sportwear, mais assez chic quand même. C'est gentleman, gentleman à la française. C'est celle-ci vous plaira davantage. Voilà, cette belle veste, col officier, bleu marine, avec ses jolis boutons.
Ah, j'aime bien.
Ah, vous aimez bien. Donc, c'est quand même assez...
Ah, c'est réussi.
Stylé,
ça fait
comme
un petit
dit.
Peu.
Alors les vestes
Jimmy Stark, là.
Autour de 1000 euros. Il y a aussi des doudounes, des chinos, des polos. Et puis il y aura d'autres pièces petit à petit. Tout ça va s'enrichir chez Sir Gentleman Driver. Tout ça c'est fabriqué au Portugal et vous avez la belle boutique donc à découvrir rue du Four dans le 6e arrondissement. Allez, il est l'heure de prendre un petit cours de joaillerie. C'est dans un instant sur BFM Business.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Boudelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Gémologie, certissage, laque japonaise ou encore polissage, coup de projecteur sur les savoir-faire joailliers. Cette semaine, nous sommes en compagnie de Marie Vallanet. Bonjour.
Bonjour.
Directrice de l'école de joaillerie Van Cleef & Arpels. Nous sommes également en compagnie de Mathieu Tournaire.
Bonjour.
Directeur artistique de la maison de joaillerie Tournaire et en compagnie de Joseph Labani. Bonjour.
Bonjour.
Chef d'atelier chez la vénérable maison Mélériot d'Imélère, la plus ancienne de la place Vendôme, quand même, il faut la rappeler. De temps en temps, alors vous n'êtes pas le plus ancien chef d'atelier, loin.
Non.
Mais quand même, ça fait quelques années que vous dirigez l'atelier d'une dizaine de personnes de la maison Mélériot. Quand on est chef d'atelier, on travaille avec combien de métiers différents? C'est ça, parce qu'on parle de savoir-faire joaillier, mais il faut tout de suite le mettre au pluriel.
Oui, enfin, on peut travailler avec 6, voire 8 corps de métiers différents. Donc, mais bon, ça, c'est spécifique vraiment à toute la joaillerie. Hein, donc, voilà.
Oui, c'est ça. À l'école Van Cleef & Arpels, Marie Vallanet, combien de métiers différents peut-on apprendre? Parce qu'on rappelle que c'est une école ouverte à
au
tous, aux professionnels, mais surtout au public et aux particuliers.
Exactement, c'est une école d'initiation pour le public. Donc on propose à nos élèves des cours qui leur permettent de s'essayer aux gestes des joailliers, comme vous le disiez, au sens large du terme, mais au sein de la joaillerie, il y a effectivement des dessinateurs, ça tout le monde le comprend. Mais il y a aussi des sculpteurs sur cire pour faire les maquettes. Je suis sûre que dans l'atelier Mélériot, il y a des maquettes. Il y a aussi des joailliers qui travaillent le métal. Il y a des certisseurs qui installent les pierres sur le métal. Il y a des polisseurs, grand métier le polissage, méconnu, mais grand métier, parce qu'il permet la lumière de circuler. Donc tous ces métiers, on permet à nos élèves à l'école de s'initier aux gestes de ces métiers.
Alors si on va peut-être reprendre le plus simple, peut-être reprendre les différentes étapes. Vous nous avez pas parlé non plus du choix des pierres. Ça commence aussi souvent par là, parce que parfois d'une pierre naît une création dans les grandes maisons. C'est ça aussi. Alors, on ne va pas aller jusqu'à la recherche des pierres.
Mais les chercheurs de pierres.
Hein, il y a les chercheurs des pierres. On avait fait, c'était magnifique. On a l'impression d'être
C'était des Indiana Jones.
Celui-là,
la place Vendôme partait dans le monde.
Mais si on commence donc par la gémologie, il faut savoir les connaître, les reconnaître. Alors vous aussi, vous avez choisi dans la maison Tournaire, Mathieu Tournaire, de donner aux particuliers des cours de gémologie. Pourquoi vous avez choisi comme ça de vous adresser aux particuliers?
Alors nous, on a une vision un peu particulière des pierres. Du coup, on a voulu transmettre cette passion pour les pierres précieuses. C'est pour ça, au début, on a offert ça à nos clients, de manière à ce qu'ils comprennent pourquoi on utilisait telle pierre. On expliquait les propriétés et on leur apprenait à regarder la pierre d'un œil un peu différent. Et puis petit à petit, on s'est mis à le proposer au grand public. Voilà, les gens peuvent s'inscrire et c'est vraiment une manière de découvrir les pierres d'une manière différente et de.
Pourquoi c'est important de savoir? Parce que c'est pour leur expliquer que ce n'est pas juste une couleur, que certaines ont des propriétés, qu'il faut les reconnaître, c'est aussi pour ça. Parce que parfois, c'est vrai, on se dit juste, waouh, le bleu c'est beau, le vert c'est beau, oui. Le diamant ça brille.
Mais souvent les gens pensent bleu saphir, vert émeraude, rouge rubis et blanc diamant, alors qu'il y a plein d'autres pierres, et c'est un peu montrer ces autres types de pierres, et pourquoi telle pierre on va plus la monter en bague, telle pierre on va la monter plus en pendentif, suivant la dureté de la pierre, suivant les reflets de la pierre. Donc c'est pas mal de choses qu'on apprend à regarder avec les personnes qui viennent au cours de gémologie.
Et puis il y a tout un vocabulaire, mais vous parlez du diamant, effectivement, un diamant n'égale pas un autre diamant. Il y a véritablement des qualités de diamant, et ça, si on n'est pas un petit peu, j'allais pas dire forcément expert, mais si on n'a pas eu un minimum de formation, on ne le sait pas véritablement. Et c'est là où, certainement, à mon avis, le public peut-être est en demande aujourd'hui. Ce genre de... à la manière de ce qui se passe d'ailleurs dans d'autres univers, de plus en plus de transparence.
Exactement,
et de connaissance.
Mais c'est pour ça, c'est vraiment, nous, on a toujours eu un souci de transparence. On a fait des vidéos sur Internet pour montrer les savoir-faire. Quand on tape sur Internet, on trouve tout de suite toutes les étapes de fabrication. Et on a voulu faire pareil avec la gémologie pour expliquer aux gens, pour en fait, je ne vais pas dire vulgariser, mais pour montrer au grand public les pierres précieuses.
Et l'œil nu, ça suffit?
Non, nous, alors dans notre cours, on a...
Petit bout de lion, la fameuse petite loupe.
On utilise simplement la loupe x10 et la pince, la bruxelles pour attraper les pierres. C'est un début pour commencer la gémologie du grand public.
Marie Valadé, tout de suite, vous réagissez. Non, ça suffit pas.
Non, ça suffit pas parce que... Mais je veux dire, juste un point de détail, il me semble, je suis sûre qu'on va partager cette opinion, le plus important dans une pierre, avant toute chose, c'est l'émotion qu'elle vous donne. Voilà, il faut commencer par là. Une pierre qui va vous... Ce serait la plus belle pierre du monde si vous restez sans émotion en la regardant et en la touchant. Ça passe aussi par le toucher.
Justement, on est très novice, on est souvent très impressionnant par rapport à cet univers de la chevalerie, de la pierre. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait d'abord une émotion, mais prenons le vin, si je compare. Quand vous commencez à apprendre le vin, au bout d'un moment, vous apercevez qu'une piquette qui, 6 ans avant, pouvait vous livrer un million d'émotions, vous dites, mais comment j'ai pu aimer cette piquette? Alors, quand on parle de belle pierre, c'est l'émotion qui l'emportera. Mais est-ce que finalement, dans vos écoles, on apprend à un moment donné à séparer quand même le bon grain de livret et dire, j'étais très attiré par cette pierre, puis on m'a révélé que c'était véritablement du toc, rien du tout, une espèce de caillasse. Comment j'ai pu?
Mais on parle jamais de caillasse.
C'est d'abord l'émotion, mais enfin, quand on n'y connaît rien, on peut être ému par du rien du tout.
Eh ben oui.
Donc il y a aussi une forme d'éducation, j'imagine,
mais attendez.
Alors, Marie Valadé, et Mathieu Tourneur ensuite. Marie Valadé.
Alors, attendez. Déjà, votre comparaison est légèrement biaisée parce que une pierre, quelle qu'elle soit, 10 ans après, ça ne va pas devenir une piquette. Peut-être que le vin se dégrade.
Au départ, il y a aussi des vins qui sont très mauvais.
Donc
là, je parlais pas de
la dégradation. Donc vous ne l'avez pas apprécié au départ.
Ouais. Non, mais c'est pas ça, je parlais de l'éducation.
J'ai bien compris.
Le vin, c'est qu'on ne veut pas employer le mot. Vous ouvrez des écoles, c'est qu'effectivement, si vous les ouvrez, c'est qu'il y a un désir de partager votre savoir-faire et qu'il y a peut-être une demande du public. Et qu'il faut accepter de dire que votre univers était jusqu'à présent très fermé, très opaque, très mystérieux, qu'on peut aussi, par-delà, se faire gentiment et copieusement arnaqué, on parlait des diamants, et que c'est aussi la vertu de vos écoles, et que le vin,
c'est ça.
Quand on n'a pas été formé, éduqué, eh bien, on peut commencer en prenant du plaisir avec ce qui est un mauvais vin en vérité, parce qu'on va se faire le palais, parce qu'il y a des gens qui vont vous raconter des terroirs, et finalement se révéler et dire comment j'ai pu aimer une telle chose, alors que ce n'était pas du tout un vin dégradé, c'était juste un mauvais vin.
Alors, je reprends ce que je vous disais. Donc ça commence par l'émotion, et bien évidemment, ça ne s'arrête pas là. Ensuite, il faut apprendre à les regarder, les pierres, pour les comprendre. Et avoir quelques notions, parce que le monde minéral est extrêmement vaste, et on apprend très vite, et je suis sûre, Mathieu, que vous l'expliquez très bien, qu'il y a des pierres précieuses, mais il y a aussi des pierres fines et des pierres ornementales.
Chacune est-ce qu'on appelle juste la semi-précieuse, c'est quoi?
Ça s'appelle les pierres fines, maintenant.
Les pierres fines,
l'expression
d'accord.
Semi-précieuse, on ne l'utilise plus. Et ça commence par là. Donc il y a une classification dans le monde minéral. Ensuite, on sait qu'en joaillerie, on utilise essentiellement les pierres précieuses, mais les pierres fines également, qui ont qui ont un charme extraordinaire, qui ont des qualités minérales extraordinaires. Oui, parce qu'on a beaucoup plus de liberté de création aujourd'hui. Donc, on est sorti des règles extrêmement rigides de la joaillerie et on ose plus qu'on a osé dans le passé. Et effectivement, on peut apprendre dans les cours, c'est ce qu'on fait également dans les cours de gémologie de l'école, on a une démarche qui est assez similaire à celle de Mathieu. On permet au public d'avoir des clés de connaissances simples qui va donner des clés de compréhension. Pourquoi telle matière va être plus rare qu'une autre? Ou pourquoi telle matière a ce qu'on appelle des inclusions ou pas? Pourquoi les inclusions dans telle matière sont une qualité et peuvent être considérées comme un défaut dans une autre? etc., etc., etc.
C'est intéressant à savoir. Alors, si on avance un petit peu, parce que le temps tourne, Joseph Labanie, on a la chance de vous avoir. Vous ne donnez pas encore de cours. Quoi que vous avez enseigné à l'école Boulle, c'est faux, mais là, du coup, véritablement à des étudiants, mais on a la chance de nous ouvrir un petit peu votre atelier. Une fois qu'on a les pierres, une fois qu'on a le dessin, est-ce que c'est à partir de ce moment-là que vous intervenez en tant que chef d'atelier chez Mellerio?
Oui, tout à fait. En fait, je rejoins ce que disait mon confrère et madame. C'est vraiment la base du joyau. On part toujours de la pierre. Mm-hmm. Donc, c'est qu'à partir du moment où on a la pierre qui correspond, qu'on commence à faire des dessins. Et ensuite vient l'étape des maquettes, que ce soit de la sculpture sur cire, donc des maquettes en cire, ou des maquettes directement en argent. Il faut savoir qu'on utilise l'argent pour faire des maquettes.
Et dessins, maquettes, tout ça, ça se fait chez vous, dans votre atelier?
Oui, c'est sur place. On a notre dessinateur, et au niveau des maquettes, tout se passe à l'atelier.
Alors, Marie Lalanne...
Notre dessinatrice.
Ah, c'est important. Parce que, oui, c'est important. Parenthèse, c'est très important, parce que dans ce métier-là, on sent qu'il y a encore quand même... dites-moi si je me trompe, mais dans les ateliers, c'est quand même encore majoritairement masculin.
Non, mais ça, la tendance a changé.
Oui, ah, on a la moitié de l'atelier, ce sont
des femmes, chez Tournaire. Ouais. Et
donc,
chez vous...
Ça, c'était vrai il y a une bonne dizaine d'années, mais maintenant, c'est... D'ailleurs, on le voit au niveau des écoles, il y a plus de femmes que d'hommes.
Alors, justement, il y a une dessinatrice. C'est elle qui va créer le style et vous, après, vous exécutez, ou est-ce qu'il y a véritablement de bout en bout un dialogue en disant est-ce que ça, bon, on peut pas aller aussi loin techniquement que ce que tu as dessiné?
En fait, elle va d'abord voir les desiderata des clients. Comme nous, on est vraiment très proche de nos clients, donc c'est vraiment du sur-mesure. Donc, à partir du moment où le client a finalisé son idée, elle va donc faire son dessin, un premier jet. Elle va venir à l'atelier et à ce moment-là, on va voir les contraintes techniques. Donc voilà. Sinon, bon, c'est une personne qui a fait aussi de la joaillerie, donc qui a fait de la cheville, ce qu'on appelle de la cheville, donc c'est-à-dire vraiment, elle a fabriqué. Elle a eu une formation de fabrication. Donc moi, j'interviens vraiment que quand il y a des problèmes vraiment techniques. À ce moment-là, mais ça se fait vraiment en dialogue.
Et alors, ce qui est intéressant, on va dire tout au long de cette émission, bien sûr, on peut aller apprendre la gémologie chez Tournaire, on peut aller à l'école Van Cleef, mais quand même, ce que vous dites, il y avait un très bel article sur vous et sur d'autres chefs d'atelier dans l'Express Style il y a quelques semaines, Joseph Labanie. Vous dites, de toute façon, vous avez un CAP bijoutier, un CAP joaillier, vous êtes passé, vous avez eu votre propre atelier, vous êtes entré chez Mellerio, vous êtes chef d'atelier depuis 2014, donc ça fait une quinzaine d'années que vous y êtes. Oui. J'ai beaucoup observé avant de répéter les gestes encore et encore. Oui. C'est seulement ensuite et souvent au bout d'une dizaine d'années qu'on est capable d'acquérir les méthodes sophistiquées des grands noms et de devenir autonome.
Oui, parce que c'est vraiment un apprentissage. Hein. Il y a pas, de toute façon, vous êtes bien placé pour le savoir. C'est vraiment un apprentissage. Il y a le côté magique. On peut parler de dons, des gens doués. C'est vrai, il y a des gens doués, mais il y a, comme tout métier artisanal, il y a ce temps qu'on doit consacrer à apprendre. Et ça, il y a pas de secret. C'est voilà.
Alors le temps, le geste, la technique, l'apprentissage. Mais dans le même temps, vous êtes chef d'atelier d'une maison comme Rudy Meller et toutes les grandes maisons. Du moins, on l'espère, la Place Vendôme ont leur style, leur patte, leur touche, leur signature. On parlait de vin, un chef dans le champagne, par exemple, un chef de cave, un maître de chai, doit trouver la signature qui fera le grand champagne de chez Dom Pérignon, de chez Salon, chez de...
Je rappelle juste qu'Emmanuel Rubin est chroniqueur gastronomique. Hein, d'où la référence.
Mais justement, au-delà de toute cette capacité, ces techniques, cet apprentissage, ce regard que vous avez porté, comment on arrive à s'imprégner du style Mellerio du Meller? Et est-ce que si demain, une autre grande maison vous appelait, vous pourriez y aller, parce qu'on vous dit combien de temps il vous faudrait pour prendre la pâte, le style, la griffe? On parle de Van Cleef, il y a vraiment une grille
Van Cleef. C'est un travail. On travaille aussi avec les archives. Voilà, donc c'est vraiment un travail de recherche. Ça nous arrive de nous plier donc vraiment au souhait des clients. Donc à ce moment-là, on peut un petit peu sortir du style Mellerio. Mais en général, quand on a affaire à des clients vraiment fidèles de la maison, on va vraiment rechercher pour rester vraiment dans le style.
Mais est-ce qu'il y a une manière de sertissage particulier chez Mellerio?
Non, on n'a pas vraiment.
Est-ce qu'il y a un polissage particulier?
Non, c'est plus l'utilisation. On est vraiment connu pour ça. C'est plus l'utilisation de pierres. Bon, on parlait de pierres tout à l'heure, de pierres précieuses. on est resté longtemps, et c'est vrai, c'est un peu dommage, parce que maintenant, avec toutes les pierres qu'on a à notre disposition, on est resté longtemps très classique. On l'est encore un petit peu. Mais le style, je dirais, si on devait vraiment résumer, c'est ça. C'est vraiment de très belles pierres et très classiques. Hein, donc, voilà.
On va voir que toutes ces maisons évoluent aussi, justement, et ouvrent un petit peu.
Pour faire quelques petits cours, là, quelques petites leçons de choses.
C'est ça, préparez-vous les doigts, parce qu'il va falloir qu'on
commence. On va commencer par Béaba, en gémologie et chez Van Cleef.
Allez, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite sur BFM Business.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goodlux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et des Goodlux dans les coulisses du savoir-faire joaillier. Cette semaine, nous sommes toujours en compagnie de Marie Vallanet, directrice de l'école Van Cleef & Arpels, de Mathieu Tournaire, directeur artistique de la maison Tournaire, et de Joseph Labani, chef d'atelier de la maison Mélerio di Meller. Alors, on a vu un petit peu, messieurs, dames, effectivement, quelques étapes. On a parlé de cours de gémologie que vous délivrez, Mathieu Tournaire. On est passé peut-être rapidement sur le dessin et l'importance du dessin. Là aussi, c'est un vrai savoir-faire. C'est pas juste un dessin, un croquis comme ceux que fait Emmanuel Rubin régulièrement dans Goodlux, mais
super.
C'est vraiment un savoir-faire à la gouache. On n'est pas, c'est pas le dessin de Karl Lagerfeld, c'est encore autre chose.
C'est encore autre chose, même si les dessins de Monsieur Lagerfeld sont absolument magnifiques, comme les vôtres.
On arrive à la même, c'est ce qu'on apprend à l'école.
Il y a un peu plus de talent
que
moi.
Mais on commence par une inspiration qui se traduit par un croquis. On est d'accord avec ça. Et le croquis ensuite s'affine et devient un dessin plus sophistiqué, plus compliqué. Et à partir de certains moments, on va passer à la gouache. Alors pourquoi la gouache ? Parce qu'un dessin de joaillerie doit essayer d'exprimer bien sûr les volumes et bien sûr les pierres.
C'est ça.
Et donc la gouache permet de créer ce volume sur le papier.
Absolument. Absolument.
Ça vous donne déjà une première impression de ce que sera le futur.
Ça permet,
c'est la première maquette en vérité.
Non, c'est pas une maquette, parce que nous sommes toujours en deux dimensions.
D'accord.
Donc avec la maquette, on passe en trois dimensions.
Juste avant de venir à la maquette, il y a un beau bouquin sorti sur Mélerio di Meller, sur Tournaire aussi, on va y revenir. Mais vous parliez des archives tout à l'heure, Joseph Labani.
Oui.
Effectivement, quand on regarde, là, ce sont déjà des éléments précieux de la maison, quand on regarde les dessins de chez Mélerio.
Oui, tout à fait, oui.
De véritables œuvres d'art.
Oui, et là, c'est vraiment des gouaches aussi.
Déjà des gouaches.
Ah oui, déjà. Oui,
et très précises.
Très précises, très réalistes. Donc, je rejoins ce que disait madame. C'est ce qui doit donner déjà l'envie.
Faire ressortir la lumière des pierres,
oui,
c'est ça qui est
étonnant. La lumière des pierres, le volume, plus ou moins, on le devine. Mais c'est vrai que c'est le premier jet. Donc,
Allez, alors, on a l'étape, le dessin, la gouache.
La maquette.
Toujours en 2D. Ça, c'est dans l'anatomie d'une pièce joaillière. Après,
on passe à la maquette.
La maquette.
Qui est la première interprétation en trois dimensions du dessin.
Et vous l'avez dit en cire, souvent.
Alors, on peut passer par la cire verte. Il y a différentes techniques, pas toujours. On peut passer par la cire verte. De la cire verte, on peut, en parallèle, on peut aller directement sur des maquettes métal, que ce soit en métal précieux ou non. Et vous parliez d'argent.
Oui, c'est juste une habitude.
Mais
c'est votre touche à vous.
Il peut aussi y avoir des maquettes en étain. L'important, c'est d'avoir la traduction en trois dimensions de ce qui a été imaginé par les dessinateurs. Et c'est donc on a une première collaboration, parce que les maquettistes, c'est pas, ils ne se contentent pas de dupliquer quelque chose. C'est leur interprétation en trois dimensions du dessin en deux dimensions.
D'accord, on est encore dans une interprétation.
On est déjà dans une interprétation. Donc c'est très collaboratif.
C'est très collaboratif.
Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est très collaboratif. Tous ces gens qui sont tous des virtuoses, qui sont des experts de leur métier, collaborent ensemble jusqu'à la réalisation finale.
Mathieu Tournaire, c'est vrai qu'en plus, dans la maison Tournaire, votre père imagine vraiment de la 3D, de la sculpture joaillière. Donc on imagine là l'importance aussi de la maquette.
Prototype.
C'est vrai qu'on travaille un peu différemment vu qu'on maîtrise à la fois le côté créatif et le côté technique. Nous, on ne fait pas de belles gouaches par rapport aux autres maisons. On
va directement en 3D.
On fait des croquis, mais vraiment sur des croquis pour marquer l'idée. C'est plus des pense-bêtes, je vais dire. Et ensuite, on va réaliser la maquette. Mais on ne passe pas trop par l'étape de la gouache, nous.
Et je pose une question. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit d'autres univers de création, on travaille beaucoup avec de l'ordinateur. Est-ce que ça n'existe pas, ça, par exemple, des profilages, de la 3D, des simulations de ce que sera le bijou avec des ordinateurs? Vous restez véritablement dans le dessin, puis dans la gouache, puis dans la maquette, c'est important parce
Alors, ça existe aussi, le métier d'une manière générale, ça existe bien sûr dans le métier. Ça dépend ce qu'on veut obtenir comme objet final. Quand on se situe dans la très haute joaillerie, on ne travaille pas avec l'ordinateur parce qu'il y a la main la main.
C'est ça qui va donner le sens
à la main.
Pas du
tout d'ordinateur.
Tout à fait, non.
Pour la haute joaillerie, non.
Chez nous, on utilise beaucoup l'ordinateur.
Mais pour la joaillerie qui nécessite des moyens technologiques, parce que pourquoi se priver des outils technologiques de notre époque? Pourquoi s'en priver?
Exactement, en fait, vous avez mieux formulé la question que je l'ai fait. Et vous devriez être journaliste.
Mais écoutez, très bien.
Moi, je ne pourrais pas diriger une école.
Ceci dit, l'aspect technologique, l'aspect technique, il existe quand même, quand on travaille dans une maison classique comme chez Mélério. Et alors d'ailleurs, c'est ce que vous faites, Joseph Labbani, parce que vous avez la chance, c'est pas vrai, dans toutes les maisons, on vous confie un bijou de A à Z, de bout en bout. Et tous les défis techniques dernièrement, par exemple, vous parlez des boudoirs de Monica Bellucci pour la présentation de Spectre, il fallait qu'elle se transforme.
Oui, il fallait trouver un système pour qu'elle devienne pendentif. Donc là, voilà. C'est vraiment on était vraiment dans l'expérimentation pure, parce qu'il fallait vraiment chercher les astuces, modifier des maquettes.
C'est de la mécanique presque.
C'est de la mécanique, mais ça. Il y a une partie dans la joaillerie de mécanique pure, à petite échelle, mais mécanique. Tout ce qui est système, par exemple, des fermoirs et tout ça, c'est vraiment de la mécanique.
Et c'est un autre corps de métier qui intervient?
Non, du tout. Le joaillier est formé à ça.
D'accord.
Donc on est formé non seulement pour les volumes et pour le reste, mais il y a aussi tout ce côté mécanique. Il faut aussi prendre en compte les contraintes que ça peut poser. Un bracelet qui a une articulation trop faible va casser assez vite. Donc il faut assimiler tout ça. Et le joaillier est formé à ça.
Allez, on essaie de continuer sur les étapes. On s'en était arrêté aux premières maquettes, avec différentes formes, parfois le métal, souvent la cire. Si on continue, si on veut vraiment essayer d'aller jusqu'au bout du bijou, quels sont
les
autres corps de métier?
Les joailliers rentrent en piste.
Enfin, pas trop tôt.
À ce moment-là. Commence à travailler le métal. Donc,
Polissage, c'est très très important. Pourquoi c'est si important? On va vous poser la question aussi, Joseph Lavenir.
Alors, ma réponse, c'est que pour qu'un bijou soit le plus beau possible, il faut que la lumière le traverse le plus parfaitement possible. Et le polissage sert à ça. Donc, et ce qui est important à comprendre, c'est qu'on ne polie pas un bijou à la fin de sa fabrication. On intervient au polissage dans les différentes étapes de la fabrication. Pourquoi ? Exemple, du métal, on va sertir des pierres dessus. Une fois que les pierres sont serties, vous n'avez plus accès à certaines parties du métal. Donc il faut polir avant, il faut polir après, et il faut reprendre pour le polissage final.
C'est ce que vous dites aussi, Joseph Labbani. Et ça, on a l'impression que c'est tout ça. On se dit,
vous allez fâcher des gens.
Mais c'est notre naïveté première.
Vous êtes pardonné. Non, c'est un métier à part entière. Et je respecte beaucoup ce métier, parce que c'est ce qui permet vraiment de sublimer le bijou. Comme disait madame, on fait ce qu'on appelle des prépolis. Parfois, si on a une bague qui va s'assembler en 6 morceaux, les différents morceaux vont être polis avant même l'assemblage. Après, il y a le pré-poli avant le serti, parce que c'est vrai qu'il y a des espaces auxquels la polisseuse ou le polisseur n'auront pas accès. Donc c'est vraiment un métier à part. Et vient ensuite le poli final, qui donnera vraiment son éclat au bijou. Ouais. Donc non, c'est vraiment un cours de métier.
C'est un vrai savoir-faire.
C'est un vrai savoir-faire.
Virtuose, également.
Oui, complètement.
Méconnu.
Oui.
Le sertissage. Du coup, est-ce que là, on va se tourner vers vous, Mathieu Tourner. Le sertissage, là aussi, chacun, même s'il y a un savoir-faire de base, chacun a un petit peu sa manière de faire, non ?
Il y a différentes techniques pour fixer les pierres. Les plus connues sont les sertigriffes, où on va dire que c'est des fils qui tiennent la pierre. Les sertigrains, c'est des copeaux qui vont tenir la pierre. Et le sertigclos, que nous, on utilise beaucoup, on utilise une sorte, pour vulgariser la chose, de mini-marteau-piqueur pour rabattre le métal au-dessus de la pierre. Donc c'est une étape très délicate où on utilise une sorte de microscope, une binoculaire on appelle, pour travailler de manière très précise parce que les pierres n'ont pas toutes la même dureté et on peut les abîmer si on met un coup d'outil mal placé. Donc ça c'est vraiment des
très techniques. Alors c'est intéressant, vous parlez de trois grandes techniques de sertissage. Je pense qu'il y a quelques maisons qui ont la leur propre.
Le serti mystérieux.
Est-ce que, est-ce qu'on pourrait imaginer encore, et là je me tourne vers vous, des nouveaux brevets, des nouvelles façons de sertir, ou est-ce qu'on a fait le tour?
On en invente tous les jours, je pense.
Oui. À la manière de l'horlogerie, qui elle invente souvent des nouveaux mouvements, des complexités qu'on n'attendait pas. Parce que dans le monde de la joaillerie, notamment à cet instant, et pas simplement, mais du sertissage, on peut peut-être demain réinventer des nouvelles techniques qu'on n'attendait pas.
La joaillerie est injustement souvent perçue comme, un métier un peu figé, conservateur, passé.
Elle a longtemps été secret.
Mais c'est vrai
que vos maisons, notamment l'école Van Cleef, permet aujourd'hui
de s'ouvrir un peu. Ce sont des métiers qui sans cesse repoussent les limites de l'excellence, cherchent à aller plus loin pour créer des objets les plus beaux possibles, les plus parfaits possibles. D'ailleurs, dans un certain nombre de maisons, il y a des cellules recherche et développement. Donc, sans arrêt, c'est un métier qui se réinvente. Alors, évidemment, il ne l'a jamais expliqué, donc personne ne le sait.
mais très sincèrement, petit incite, c'est vrai que ça change beaucoup. On voit qu'il y a des maisons de Vendôme qui ouvrent de plus en plus leur salon sur le net. On les voit se révéler. Des maisons aussi ouvrent des petits musées, vous-même une école.
On explique.
Aujourd'hui, justement, il n'a pas aussi changé. Il y a 4 ans, lorsque vous avez créé l'école Van Cleef, tout le monde en a parlé. Et beaucoup de gens disaient, c'est une bonne idée, mais qui va aller dans cette école au bout d'un moment? 4 ans après, c'est un véritable succès international. Et beaucoup de gens qui ne cherchent pas à finalement devenir sertisseurs ou polisseurs, qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans votre école? Si ce n'est peut-être d'ajouter à l'émotion un peu d'éducation, un peu de savoir, sans justement abîmer le mystère de la joaillerie, mais savoir un peu plus.
Les clés de compréhension. Vous devenez un amateur éclairé. Quand vous avez de la connaissance, vous devenez un amateur éclairé.
Mais comme il y a eu des écoles de vin.
Voilà, les écoles de vin.
Le public, 4 ans après, c'est un vrai succès, l'école Van Cleef. C'était pas gagné, 4 ans après. C'est combien de promotions, mais d'élèves depuis 4 ans, et surtout par an, il y a combien de sessions?
Alors, 3300 élèves depuis l'ouverture. Et surtout, parce que moi, je suis très attachée au côté international. Les élèves viennent de 36 pays différents. Aujourd'hui, ce qui fait que c'est formidable pour le métier. Ça montre bien que le public, quel qu'il soit, a une vraie curiosité, une vraie envie de savoir, une vraie envie de connaître.
On a le droit de toucher et de manipuler des vraies pierres.
Les cours de gémologie de l'école, oui.
D'accord, mais pas pour le sertissage.
Non.
Ce serait trop compliqué.
Non, ce serait un peu risqué.
Non,
on est d'accord. Ce serait un peu risqué quand même.
C'est un peu dangereux.
J'aimerais revenir, Joseph Lavanie, sur cette histoire de R&D. Justement, vous le disiez tout à l'heure, et vous avez commencé en me disant, c'est vrai que Méliard-Rio, on est dans une grande maison classique, mais ça change un petit peu. Quand on parle de R&D très concrètement, peut-être l'aspect mécanique dont vous parliez tout à l'heure, comment ça se concrétise, alors sans nous révéler tous les secrets de la maison, mais chez vous, dans votre petit atelier d'une dizaine de personnes, sur quoi vous réfléchissez parfois?
Surtout, oui. Et moi, je tiens justement à ce que... Enfin, on a toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que on est dans une optique de faire évoluer les gens. Vu que c'est un métier artisanal, justement, mes collaborateurs sont là aussi pour apprendre, pour évoluer.
Progresser.
Voilà. Donc, il y a des pièces, par exemple, où on va se réunir et essayer de trouver la solution à plusieurs. Voilà. Moi, je tiens à ça, justement. Et c'est vrai que ça a toujours été l'état d'esprit à l'atelier de Méliard-Rio. Donc, c'est vraiment, à part vraiment des pièces très compliquées où là, c'est l'expérience qui reprend le pas. En général, c'est ça qui est très intéressant. C'est de vraiment réfléchir ensemble aux solutions pour arriver
voir avec un créateur, puisque la dernière collection c'était avec Alexandre Vautier, ça c'était encore histoire.
C'était super. Ouais. Ouais.
Merci beaucoup. On a plus le temps.
L'ouvrage, rapidement.
Mais oui, l'ouvrage de la maison Tournaire, une histoire aux éditions.
C'est tout fait en interne, donc c'est aux éditions Tournaire.
Voilà, vous avez raison, auto-édition. Et pour en savoir plus, le plus simple, vous allez prendre un petit cours de gémologie chez Tournaire. Vous allez à l'école Van Cleef. On n'a pas eu le temps de parler de la LAC, mais je voulais qu'on parle de la LAC. Mais ce sera une autre fois. Corps de métier. Voilà, il y a tous les corps de métier.
Et on peut
s'inscrire, aller prendre des cours. Joseph Lavanie n'était là aujourd'hui que pour vous et que pour nous. Il ne vous donnera pas de cours. Mais merci beaucoup.
Il ouvre les ateliers. Alors c'est le 06 17 92. J'arrête là.
Vous arrêtez là. Joseph Lavanie, chef d'atelier de Méliard-Rio d'Imélaire. Merci beaucoup
merci à vous.
Mathieu Tournaire, directeur artistique de la maison Tournaire. Merci à vous et Marie Vallanet, directrice de l'école Van Cleef et Arpels. Merci beaucoup pour tous ces enseignements et tous ces cours. Messieurs, dames, vous restez avec nous dans un instant. Tiens, on va parler parfum plutôt dans Good Luxe. À tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et dans un instant, dans Good Luck Paris, c'est le moment de l'agenda. Mais avant, nos deux petits rendez-vous habituels, on accueillera la chronique parfum dans un instant. Et tout de suite, c'est le livre de la semaine. Et aujourd'hui, je ne vous parle pas d'un beau livre, Emmanuel, et non. C'est vrai qu'on parle souvent de beau livre dans cette émission. Plutôt d'un essai. Mais un essai qui vous concerne, qui nous concerne, qui concerne Good Luck. Ça s'appelle Libérer le goût. Édition libre et solidaire. C'est Carlo Petrini, le fondateur du mouvement Slow Food, qui était cette semaine à Paris. Alors, son livre est sorti il y a quelques semaines déjà, mais il était à Paris pour à nouveau prêcher la bonne parole. Je ne vous parle pas là du Dalai Lama, mais quand même, Carlo Petrini, c'est quelqu'un. Son action et son engagement ont été reconnus par les Nations Unies. En 2013, il a donc créé Arcigola en 86, qui est devenu le mouvement Slow Food en 98. Il est le fondateur du réseau Terra Madre, du Salon du Goût de Turin, de l'Université des Sciences Gastronomiques. Et là, c'est vraiment un essai qui revient sur les origines du mouvement Slow Food. On rappelle quand même, il est présent, ce mouvement, dans 150 pays et il compte 100 000 membres. L'idée, c'est quoi? Manger bien, manger mieux. Et c'est une des fois, je vous cite juste une petite citation de Carlo Petrini qui vous donne un petit peu l'état d'esprit de ce mouvement et de son ouvrage. Je me fiche de la porno-gastronomie omniprésente dans les médias. Il n'y a pas que les photos de plats, les recettes et les étoiles qui comptent. Il y a aussi l'agriculture, la fertilité du sol, le désastre de l'eau. Une gastronomie qui ne pense qu'à l'homme, mais pas à la terre, n'est pas juste. Voilà l'état
d'esprit. C'est un personnage, surtout, il prouve, Carlo Petrini, qu'on peut faire bouger les lignes. Aujourd'hui, Slow Food, effectivement, qui est parti de Turin en Italie. Alors, il faut se rappeler, c'est un intellectuel, sociologue, philosophe, qui s'est intéressé aux choses alimentaires. Alors, il y a toute une dimension aussi très gourmande et très gastronomique.
Bien sûr.
Mais il la replace, il raconte qu'effectivement l'assiette est un miroir de l'époque. Il a donc travaillé à des rapprochements nord-sud, c'est toujours très travaillé, surtout quand je dis qu'il faisait bouger les lignes. Il y a 20-25 ans, lorsqu'il a créé Slow Food, une manière de décélération gastronomique, les gens regardaient ça de très haut, voire se moquaient. 25 ans après, effectivement, c'est un mouvement très puissant en Italie, avec des universités, parce qu'il y a aussi des chaires dans les universités.
Et le retour au produit,
musée.
À mon avis.
Et aujourd'hui, si on parle de traçabilité, si on parle de sourcing, c'est aussi grâce à ce personnage-là. Effectivement, son mouvement est sémé dans le monde. Et on s'aperçoit que des initiatives, non seulement inspirés, intellectuels, peuvent véritablement faire bouger les lignes. C'est un grand monsieur de la gastronomie, et par-delà. Il l'enferme pas, effectivement, dans son jeu un peu pornographique, voire bêtement médiatique, ni non plus dans une gastronomie de gastronome qui va pas très loin.
Et là, l'un de ses objectifs, on en reparlera sûrement, c'est 10 000 produits en danger de disparition à embarquer sur leur arche du goût. Voilà, ça s'appelle Libérer le goût, aux éditions Libre et Solidaire de Carlo Petrini. Allez, la chronique parfum.
BFM Business, Good Luck Paris, l'édition du week-end.
Lionel Paillez, bonjour.
Bonjour Karine.
Comment
bonjour
allez-vous? Emmanuel. Alors, en ce début d'année, le petit top 50, ou presque, du parfum, qu'est-ce qu'on voilà. nous a senti?
Nous me réveillerons quand on arrivera sur le podium du top 3.
On va commencer par les adieux.
Ah
parce
oui.
Parce qu'on a un,
c'est rare les adieux en
un
parfum.
Grand parfumeur, c'est, en général, on les fait
moins
pas.
Moins qu'en politique.
Ah oui,
les adieux.
Ah oui.
On a oui,
dans
cette
le show
semaine.
Business aussi, on fait des adieux tous les mois, tous les jours. C'est Jean-Claude Elena, donc le parfumeur de la maison Hermès, qui quitte la maison. Et alors, ce départ s'est fait assez joliment, c'est-à-dire qu'il a créé son dernier parfum au moment même où on présentait le nouveau parfum du nouveau parfumeur qui s'appelle Christine Nagel. Alors, on va parler de Jean-Claude Elena, puisqu'il s'en va.
Grand monsieur, qu'on a reçu souvent sur ce plateau.
Ouais. Et donc, il nous quitte avec une cologne. Il pouvait pas mieux partir, finalement. La cologne, c'est emblématique de son style, qui s'appelle l'eau de Neroli dorée. Il s'amuse toujours avec le nom de ses parfums. Donc là, l'idée, c'est le Neroli, c'est la fleur d'oranger, c'est l'essence de fleur d'oranger. Donc c'est quelque chose qui est très ancré dans l'esprit de la Cologne. Alors là, il a été vraiment au maximum de ce qu'on pouvait mettre comme Neroli. Donc c'est une espèce de lit de Neroli dans lequel on se vautre, qu'il a rehaussé simplement d'un peu de safran. Donc c'est un Neroli très épicé. C'est ultra simple, il n'y a pas plus. Finalement, lui, son ambition, c'était de réduire le nombre de ses matières premières dans une formule. Là, il est arrivé à l'apogée de ce qu'il pouvait faire. Je pense qu'on peut pas même moins. On peut pas mettre moins de matières premières que dans celui-ci. C'est une.
Coup de chapeau.
On rappelle, c'est un personnage qui effectivement qui a, je pense, installé. C'était déjà une grande maison de parfumerie Hermès, mais qui l'a gonflé. C'est aussi un grand faiseur de best-sellers. Pour Hermès, Terre d'Hermès, qui est un grand succès, parfum masculin, on lui doit. Toutes les eaux chez Hermès, eau du Nil, c'est lui. Et puis avant ça, il avait quand même.
Déclaration de quartier.
Voilà, c'est vraiment un des grands, grands noms. Alors, est-ce qu'il fera des adieux à la Charles Aznavour? C'est-à-dire que régulièrement.
Emmanuel, si on veut arriver à la fin du top 50, on va pas y arriver.
Il faudrait peut-être faire une émission spéciale. Elle est là, alors.
Peut-être, oui. La plus belle égérie.
La plus belle égérie. Alors, le nouveau Dior, alors, c'est toujours une bataille entre les maisons pour avoir l'égérie. En général, on se partage les égéries. Elles passent d'une maison à l'autre, en ce qui concerne le parfum particulièrement. Là, on a enfin une bonne idée d'égérie. Une égérie qui donnerait envie presque à un homme, je pense, d'acheter le parfum. Donc, le parfum, c'est Poison Girl. Donc, c'est la énième déclinaison de Poison de Dior. Et l'égérie dont on parle, c'est une jeune femme qui s'appelle Camille Hiro Pourcheresse. Alors, tout le monde la connaît parce que c'est probablement le mannequin qui communique le mieux sur Instagram. C'est la fille qui a l'air totalement normale parce qu'elle se filme, elle se photographie toujours chez elle, avec ses copines. Mais c'est toujours d'un chic absolu. Donc elle est toujours dans les plus beaux endroits.
Galon, attention, en ce qui concerne.
Et le parfum, il donne quoi? Il est bien.
Le parfum, on en reparlera. Mais la vraie bonne idée, c'était de trouver une fille vraiment très décalée
et très présente sur les réseaux sociaux. Et
absolument.
Ouais. Et
c'est la nouvelle communication Dior.
Allez, le remake le plus réussi.
Alors l'Odyssée dont on a parlé, je dirais que chez les hommes, il y a une dizaine de best-sellers et de parfums que tout le monde porte ou a porté. Et l'Odyssée pour homme, c'est un des grands parfums des années 90. C'est très difficile de retoucher un grand parfum. Parfois, certains s'y sont essayés et
se sont cassés les dents.
Là, c'est vraiment une très bonne idée. Donc, l'idée de l'Odyssée pour homme, c'était une note marine, c'était les embruns marins. Donc là, on a atténué ce côté-là qui était très années 90. Et on sait, le parfumeur qui s'appelle Christophe Reynaud, s'est concentré sur la fraîcheur et la lumière. Parce que la nouvelle façon de parler de fraîcheur pour les hommes, c'est ça. C'est de créer des parfums très lumineux. On a de la sauge, de la lavande et une vraie innovation qui s'appelle un patchouli blanc. Donc qui est né d'une matière première de synthèse, qui est un patchouli très lumineux, donc moins terreux, moins sombre que le patchouli habituel. Donc très réussi, vraiment un remake
L'Odyssée fraîche. Et alors justement, en termes d'audace, le plus audacieux?
Alors ça, c'est la nouvelle marque dont on va beaucoup parler, qui s'appelle Ether, qui est une marque... Vous savez, il y a un salon qui vient de se terminer, qui s'appelle le Tranoï, qui est un salon de la mode, mais qui pour la première fois cette année s'ouvrait à la parfumerie d'auteur. Et la marque a été lancée à cette occasion-là. Donc c'est une marque qui, vous allez dire que c'est un peu mon obsession, mais qui rend hommage à ces molécules de synthèse très abstraites. Donc c'est une collection de 5 parfums autour d'une molécule à chaque fois. Celle-ci s'appelle Rose Alcane. Et l'idée, c'était de retravailler une rose, et une rose assez futuriste, assez métallique, c'est une rose de l'espace un petit peu.
Ah oui.
Donc c'est vraiment une merveille. C'est tout à fait portable. Hein. On n'est pas dans l'abstraction et dans l'art contemporain de la parfumerie.
Rose Alcane de l'Ether.
Rose Alcane.
Va falloir le vendre. Allez, très rapidement, le plus chic.
Alors le plus chic, c'est Coco Mademoiselle. Alors, on n'a pas eu l'occasion d'en parler parce que c'est un parfum qui a une quinzaine d'années maintenant, féminin. La nouvelle idée, c'est ce à quoi travaillent aujourd'hui les maisons, c'est des nouveaux gestes de parfum. C'est qu'on a à peu près tout fait en termes d'odeur et d'accord.
On dirait un joli long bâton de rouge à lèvres.
Alors là, on est entre le rouge à lèvres et le mascara. L'idée, c'est vous parfumez le matin. Vous n'avez pas forcément envie d'emporter avec vous votre flacon de parfum. Vous emportez cet objet. Regardez, quand je dis mascara, on est vraiment dans le mascara.
Vous savez, on dirait pour les lèvres, pour
absolument.
Un gloss à lèvres.
Ça peut être un gloss à lèvres également. Et là, en fait, c'est du parfum sous forme de crème que vous pouvez vous mettre au creux du poignet ou sur le cou, et c'est une façon de vous reparfumer.
C'est des nouveaux gestes.
C'est comme un raccord parfum, en fait, que vous faites.
Mais pas trop fort.
En milieu de journée. Non,
discret,
c'est très léger.
Ah, super. Et donc ça, c'est Coco Mademoiselle.
Coco Mademoiselle, mais ils vont les décliner, probablement.
Ah bah super.
Dans le palmarès, il avait été très dans le miel ce mois-ci. Le mois prochain, un peu de miel.
Ne me tentez pas, Emmanuel.
Merci beaucoup, Lionel Paillet-Doy.
Il y avait des belles choses.
Avec nous, c'est l'agenda très rapidement.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end, l'agenda.
Allez, très rapidement, Emmanuel, les ventes auto, il y avait beaucoup de choses, il faut recadrer un petit peu, parce que la semaine dernière, vous êtes emballé.
Beaucoup de choses, c'est la belle saison, on a parlé de celle d'Arcurial, on a parlé de Rétromobile, j'ai un petit peu fait une sortie de route. Alors, Media Culpa, j'ai associé la maison Bonhams à la maison Christie's pour une vente. Alors, la vente Christie's dont je parlais la semaine dernière existe bien, mais en fait, elle est complètement décorrélée de la maison Bonhams, grande maison aux enchères dédiée à l'automobile, qui, elle, dispersera plusieurs lots automobiles, les 3 et 4 février prochains, sous la Grande Nef du Grand Palais. Alors, beaucoup de pièces. La pièce forte, c'est une Ferrari 275 GTB berlinette 1966, design Pininfarina, je vous la décris pas, haute ceinture de caisse, arrière tronqué, long capot, nez plongeant, ça a été un très très grand succès automobile. Puis alors, il y a des pièces un peu plus étonnantes puisqu'on est quand même dans l'automobilia, c'est-à-dire il n'y a pas que des modèles automobiles, il y a quelques deux roues. Et puis alors il y a aussi des jeux d'outils, c'est-à-dire des mallettes à outils pour réparer son moteur, notamment
voilà,
un jeu de mallette pour Ferrari. 512, pardon, qui est exceptionnel.
3 et 4 février, donc, au Grand Palais, cette vente Bonhams. Une dernière petite info rapidement pour les gourmands. Un pop-up store, les Marquis de la Durée. C'est 39 rue François 1er dans le 8e arrondissement de Paris. C'est ouvert jusqu'au 28 février. Alors, c'est un peu plus qu'un pop-up store. Hein. Déjà, ça fait pas mal de temps qu'il est ouvert. On a c'est très, très design. On a un grand service en corian, mur et plafond béton. Tout ça est très blanc. Et à découvrir, le petit diamant, le bonbon chocolat taillé comme une pierre précieuse.
Comme un camé.
Non, justement, là, ils ont fait vraiment, c'est comme un diamant taillé.
On reste dans la joaillerie, alors, aujourd'hui.
On reste dans la joaillerie, exactement. Donc, une ganache caramélisée au gingembre et aux fruits de la passion. Et la chef chocolat, c'est Johanna Le Pape. Elle est quand même passée par le Lutetia et le Maurice, donc elle sait y faire.
J'étais un peu étonné qu'il ne parliez pas de sucre aujourd'hui.
Ces créations, c'est toujours une petite douceur, pour terminer. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.
C'est moi qui vous remercie.
Allez, Good Luxe Paris, ça continue un instant. C'est le best-of de la semaine sur BFM Business.